don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民南家
都忙了。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, aussi Tiffaine de Roquigny, Xavier Martinet, Hélène Paquet, réalisée par Perret Legras et mise en onde ce matin par Jean Frédérics. Cette semaine, dans Culture Monde, nous allons parler de dissidence, des dissidences nouvelles, une série libre inspirée du livre de Michel Elchaninov, Les Nouveaux Dissidents, à paraître ce mercredi chez Stock, qui sera d'ailleurs notre invité demain. Nous parlerons toute cette semaine de la Russie, de la Turquie, mais aussi de l'Occident. Mais ce matin, nous parlons de la Chine.
Vous pourriez exposer cette œuvre en Chine ?
Vous rigolez ? Je ne sais même pas où la cacher.
J'espère que la police ne viendra pas. J'espère qu'elle n'est pas au courant.
Sachez bien que si vous voulez exposer des œuvres qui parlent de la politique de notre pays, alors ce sera non.
Tous ceux qui osent parler de liberté dans ce pays sont étroitement surveillés, voire jetés en prison ou détenus illégalement.
Nous savons que la Chine reste toujours un pays totalitaire où il y a un seul parti qui dirige tout. Pour moi, il s'agit d'une vie quotidienne. Je sens 24 heures sur 24 la présence de la police, la présence d'une surveillance et comment faire de sorte qu'on garde quand même sa dignité.
Liu Jiabo, prix Nobel de la paix 2010, toujours en prison aujourd'hui. L'artiste Ai Weiwei en liberté conditionnelle, mais aussi Zheng Jinyan, qui était sur France Culture la semaine dernière dans la grande table de Caroline Bruet, quelques grandes figures de la dissidence chinoise. La semaine dernière, un journaliste chinois d'une trentaine d'années, Zhao Jiao, a disparu alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion. Depuis, les inquiétudes sont grandes pour son épouse et son avocat, pour qui il a certainement été arrêté. Les raisons de leur crainte, une lettre signée par Zhao Jiao, dans laquelle il accuse le camarade Xi d'avoir abandonné le principe de la direction collective et de concentrer le pouvoir entre ses mains. Une publication explosive qui n'a probablement pas dû plaire aux autorités. S'il faudra attendre pour que cette hypothèse soit confirmée, force est de constater que le bras de fer entre les autorités et les voix dissonantes de la République populaire de Chine est en train de se muscler. Pour preuve, la véritable démonstration de force du président Xi Jinping, qui s'est rendu il y a quelques jours en personne au siège de la télévision chinoise, demandant aux journalistes de travailler à guider l'opinion dans la bonne direction, de constituer le relais des propositions du parti et d'être les promoteurs de l'avancement social. Alors si les journalistes sont sous pression, les avocats ne sont pas en reste. En effet, depuis plusieurs mois, ils font l'objet de nombreux procès, à l'instar de Pu Jiqiang, jugé en décembre dernier pour plusieurs messages sur Weibo, le Twitter chinois, et condamné à 3 ans de prison avec sursis pour incitation à la haine raciale et provocation au trouble. C'est un homme qui était connu pour avoir défendu l'artiste Ai Weiwei, mais sa lutte s'inscrit sur le long terme puisqu'il avait participé aux manifestations de la place Tiananmen en 89 et puis plus tard, en 2008, il avait également signé la fameuse charte 08, manifeste de plus de 300 intellectuels et militants des droits de l'homme pour promouvoir la réforme politique et le mouvement démocratique chinois. Il n'en faut pas beaucoup plus pour comprendre et bien que cette dissidence chinoise vit des temps difficiles. La Chine vit-elle un regain d'autoritarisme et comment le comprendre? Nous allons nous intéresser aux dissidents d'aujourd'hui, à leur motivation, à leur mode de contestation, aux projets politiques dont ils sont porteurs. En quoi se démarquent-ils peut-être de leurs aînés? On ira du côté de Hong Kong tout à l'heure pour trouver Nicolas Becklin. Et puis, il y a des fois où les dissidents finissent par prendre le pouvoir. C'est le cas en Birmanie, où suite à la victoire du parti d'Aung San Suu Kyi, le Parlement vient d'élire l'un de ses proches postes de président. On en parlera tout à l'heure avec Gulubet. Mais pour évoquer ces nouvelles dissidences et cette dissidence chinoise, c'est Marie Holzmann qu'on a invité aujourd'hui. Bonjour Marie Holzmann.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sinologue, journaliste, conférencière. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur la Chine. Depuis plus de 25 ans, vous présidez l'association Solidarité Chine qui a été créée en 1989 à la suite du printemps de Pékin, qui est une association qui a pour mission de promouvoir l'ouverture démocratique en Chine. Alors, je le rappelais, Marie Holzmann, la semaine dernière, on apprenait la disparition disparition de Zhao Zhao. Je ne sais pas si je prononce correctement.
Jia Jia.
Il avait eu par téléphone son épouse juste avant de prendre son avion pour Hong Kong. Et puis depuis, plus de nouvelles. Sa femme et son avocat craignent qu'il ait été arrêté. La raison, je le disais, c'est peut-être cette lettre dont il est signataire et dans laquelle il accuse le camarade Xi d'avoir abandonné le principe de la direction collective. Pas beaucoup de doutes, hein, Marie Holzmann, sur le fait qu'il a probablement été arrêté. Il n'y a pas encore de confirmation, mais les craintes sont grandes.
On ne disparaît pas comme ça lorsqu'on est dans un aéroport et qu'on s'apprête à prendre l'avion. En principe, on arrive à sa destination. Sinon, c'est qu'on a été intercepté. C'est d'autant plus certain que les kidnappings se multiplient en ce moment en Chine et autour de la Chine. D'ailleurs, il y a une expression en chinois, le verbe « disparaître » est théoriquement uniquement à l'actif, mais maintenant en Chine, on l'utilise beaucoup au passif. Il est disparu. On l'a disparu. Et il s'agit justement donc de personnalités qui sont remarquées par le pouvoir, qui gênent et qui sont kidnappées. Nous avons eu le cas de 5 libraires à Hong Kong qui ont été kidnappés. Il y a le cas d'un journaliste qui était en Inde, qui a craint pour sa sécurité, qui s'est réfugié en Thaïlande et qui, en Thaïlande, a été kidnappé. Bref, c'est une pratique maintenant qui se multiplie en Chine et qui nous inquiète énormément.
Et a priori, ce lien que je faisais peut-être avec cette lettre signée par Zhao Zhao, ça vous paraît... Alors, plausible, évident.
Très probable. Évidemment, il peut y avoir autre chose, mais c'est très probable. Le cas de Jia Jia, c'est qu'il a aussi transmis, apparemment, une lettre qui aurait été écrite par quelqu'un à l'intérieur du système et qui demandait la démission de Xi Jinping. Donc, ça fait beaucoup. Il a accompagné cette lettre d'un commentaire et il a un peu mis le doigt sur la plaie. C'est-à-dire qu'on imagine, maintenant, on ne le sait pas, bien sûr, mais on imagine que Xi Jinping commence à être de plus en plus détesté à l'intérieur même de son bureau politique.
Alors, justement, il y a quelques semaines... Xi Jinping, le président chinois, s'est rendu lors d'une visite très médiatisée à la chaîne publique CCTV. Voilà, alors il a fait passer son message aux journalistes. Les médias doivent travailler à guider l'opinion dans la bonne direction. Les journalistes doivent être le relais des propositions du parti, les promoteurs de l'avancement social. Il s'est même assis dans le fauteuil du présentateur du journal et il a comme ça donné ses conseils. On sait bien combien le contrôle est très strict, extrêmement serré pour les journalistes. Mais là, on a une forme quand même, Marie Holzmann, d'interventionnisme relativement inédit. On sent assez clairement une pression peut-être renouvelée sur les journalistes. Pourquoi ?
Tout à fait. Et puis vous avez oublié un détail qui a beaucoup marqué les esprits en Chine. Xi Jinping a employé une expression qu'on n'avait jamais entendue, c'est-à-dire il parlait de l'agence Chine Nouvelle, enfin de la télé-chaîne Chine Nouvelle, et il a dit le nom de famille de Chine Nouvelle maintenant doit s'appeler Dang, et Dang c'est le parti. Imagine, France Culture s'appellerait plus France Culture, mais France PS, enfin quelque chose comme ça. C'est effrayant. C'est effrayant parce que ça rappelle les pires moments de la Révolution culturelle. Pendant la Révolution culturelle, effectivement, il y a eu des périodes où, en dehors de la voix du président Mao, on n'entendait plus rien. Donc, ce geste de Xi Jinping a évoqué des souvenirs assez abominables, où la liberté d'expression était limitée à zéro, et on a l'impression d'un retour en arrière extrêmement rapide à cette période de la révolution culturelle.
Est-ce que ce recul, on le ressent, les journalistes le ressentent, y compris dans leur activité, dans les enquêtes qu'ils peuvent ou pas mener? Parce que c'est Ursula Gauthier qui était ici à ce même micro il y a quelques temps. On le sait qu'il a dû revenir en France puisque son permis de travail n'a pas été renouvelé à la fin de l'année dernière. Et elle nous disait qu'il y avait un certain nombre de journalistes chinois qui, pendant des années, ont pu comme ça faire un certain nombre d'enquêtes sur des sujets comme même des sujets compliqués, comme l'environnement, des enjeux sanitaires. Et de plus en plus, visiblement, l'activité journalistique est en train de se réduire.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, parmi les professions dangereuses, on met maintenant en un les avocats et en deux les journalistes. Parce que lorsqu'un journaliste déplaît, soit il peut être arrêté et condamné d'avoir dévoilé des secrets d'État, par exemple, soit il peut être tabassé par l'entreprise ou l'institution qu'il dénonce. Et ce genre de cas est relativement fréquent. C'est-à-dire que si une entreprise est coupable, par exemple, de vouloir polluer, enfin de polluer par son activité l'environnement et que le journaliste essaye de dévoiler cette réalité, à ce moment-là, les dirigeants de l'entreprise peuvent envoyer des gros bras pour le tabasser et le terroriser. Donc l'environnement dans lequel les journalistes travaillent est très complexe. Il s'agit toujours de s'exprimer un peu indirectement et de contourner la voie de la censure.
Est-ce que vous pensez que les journalistes chinois ont les moyens de tenir tête aux autorités ou est-ce que vous pensez qu'ils vont globalement être obligés de plier ? Pour le dire autrement, quels sont les moyens qui sont à leur disposition pour mener ce combat pour la liberté d'expression ?
Est-ce qu'ils en ont ? Les journalistes chinois n'ont jamais eu les moyens de tenir tête aux autorités. Le cas le plus flagrant s'est produit dans les années 1990. C'était Jiang Weiping qui avait dénoncé la corruption du maire de Shenyang. Le plus comique, si j'ose dire, c'est que le maire de Shenyang a été fusillé pour corruption. Mais Jiang Weiping a fait 6 ans de prison parce qu'il avait dévoilé des secrets d'État. Ça paraît absurde, mais c'est un phénomène extrême, évidemment. Mais tous les jours, on rencontre des phénomènes du même ordre. Et les journaux les plus audacieux se voient régulièrement fermés, ou alors le chef de la direction viré, ou des journalistes condamnés à quelques mois ou quelques années de prison. L'environnement est vraiment très difficile pour les journalistes.
Vous parlez de corruption. On sait que depuis l'arrivée du nouveau pouvoir, on a une grande campagne anticorruption qui a été lancée, d'ailleurs à tous les niveaux de la société, depuis le cadre du Parti communiste jusqu'aux petits fonctionnaires. C'est le fameux combat contre les tigres et les mouches. Dans quelle mesure est-ce que cette lutte anticorruption est aussi un outil pour mater la dissidence ?
C'est compliqué. Depuis le temps que cette lutte se poursuit, ça fait déjà 3 ans maintenant, tout le monde se pose la question de sa véritable nature. Et personne, à mon avis, n'a vraiment trouvé la réponse. Mmh. En effet, la première condition d'une lutte contre la corruption qui serait valable, ce serait d'abord de libérer la presse. À partir du moment où la presse ne peut pas débusquer les corrompus, dénoncer leurs excès, cette lutte contre la corruption devient beaucoup plus une lutte de clans. C'est-à-dire que c'est toujours le parti qui désigne les victimes et qui, dans l'opacité, va les arrêter, les condamner, sans qu'on connaisse la réalité du crime. Dans certains cas, bien sûr, on expose, par exemple, le général Xu Taiho, on a vu des photos de son intérieur, c'est vrai que c'est hallucinant. Les richesses accumulées, les collections d'antiquités, les lingots d'or, les liasses de billets qui ont été transportées dans des camions entiers, c'est réellement sidérant. Mais dans la plupart des cas, on arrête tout d'un coup un cadre sans prévenir. Et c'est ça le véritable drame, c'est que de plus en plus de fonctionnaires maintenant sont paralysés par la terreur, ne savent plus quoi faire, ne prennent plus de décisions. Et comme tout le monde est plus ou moins touché par la corruption en Chine, parce que c'est devenu en quelque sorte un mode de vie, à partir du moment où le parti se situe au-dessus des lois et bénéficie de tous les avantages et surtout tous les contacts, c'est évident que la corruption ne pouvait que se répandre à tous les échelons de la hiérarchie.
Je voudrais qu'on poursuive un petit peu sur cette pression à l'égard des journalistes avant de retrouver Nicolas Béclin du côté de Hong Kong. Il y a quelques jours, c'est le journal Le Monde qui rapportait la mésaventure d'un humoriste caricaturiste chinois qui s'appelle Jiang Weifei, qui depuis 2008 s'était réfugié en Thaïlande. C'est un caricaturiste qui régulièrement se moque du président Xi Jinping dans ses dessins. On se souvient de lui notamment, alors pas forcément pour ses dessins, mais pour l'action qu'il avait menée au moment des JO de Pékin quand il avait organisé un relais de flamme olympique alternatif, la torche des droits de l'homme. En octobre dernier, Jiang Weifei voit débarquer chez lui des hommes se présentant comme des employés des Nations Unies, sauf qu'en réalité ce sont des hommes employés par Pékin qui vont le ramener manu militari en Chine où il est placé en détention et accessoirement un petit peu torturé, en tout cas à en croire la contusion qu'il avait autour de l'œil quand on le voit réapparaître à l'image lors d'une fameuse repentance filmée et diffusée à la télévision publique. Là encore, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une nouveauté que de voir des dissidents chinois arrêtés en dehors du territoire chinois. En l'occurrence, là, c'est en Thaïlande. Vous avez le sentiment qu'on a une nouvelle politique du Parti communiste chinois qui consiste à aller récupérer ses opposants à l'extérieur de ses frontières ?
Absolument, absolument. Ça s'est déjà produit. Il y a eu, par exemple, l'arrestation de Wang Bingzhang, à la fin des années 90, qui avait été récupéré à la frontière entre la Birmanie et la Chine. Il y avait eu aussi le cas de Pong Ming à la frontière Vietnam-Chine, aussi à la même époque. Et depuis, on n'avait jamais vu ce genre de phénomène. Ce qui se passe, c'est qu'en Asie du Sud-Est, l'économie chinoise s'est tellement introduite dans tous les interstices de la société, en Thaïlande, bien sûr, mais aussi au Cambodge, plus haut au Népal, et enfin dans de nombreux pays limitrophes, que maintenant, la police chinoise semble sillonner dans ces pays en toute liberté. Le cas de Jiang Yefei, c'est un des premiers cas, effectivement, dans la série des kidnappings, mais c'est un cas particulièrement inquiétant. Jiang Yefei, c'est quelqu'un qui m'a souvent appelé de Thaïlande et appelé à l'aide parce qu'il n'arrivait pas à quitter la Thaïlande ou depuis le début, il ne se sentait pas en sécurité. Et nous, ici, on a eu beau alerter tous les organismes différents, nous n'avons pas réussi à le faire venir en Occident. Et je trouve qu'il est un peu le symbole de ces dissidents chinois auxquels le gouvernement chinois est en train de dire aujourd'hui sur quelques petits coins de la terre que vous soyez et où vous espériez vous cacher, on peut venir vous chercher.
Et vous avez le sentiment, vous, que la dissidence chinoise, justement, à l'étranger, est en train de perdre de la vigueur à cause de cela, justement, c'est quelque chose que vous observez depuis la France ?
Dire qu'elle perd de la vigueur, non, c'est pas tout à fait le problème, mais que le sentiment de danger, le danger qu'il existe à être un dissident chinois, c'est certainement un sentiment qui a monté d'un cran très nettement depuis quelques mois.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine sur les nouveaux dissidents à l'occasion de la parution du livre de Michel Elchaninov, Les nouveaux dissidents qu'on recevra demain qui vient de paraître chez Stock. On est avec Marie Holzmann, on va retrouver Nicolas Béclin depuis Hong Kong qui est directeur régional d'Amnesty International pour l'Asie de l'Est. Bonjour Nicolas Béclin.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct, ce qui explique évidemment le petit décalage qu'il y a à l'antenne. Alors, on se souvient des grandes manifestations de septembre-octobre 2014, baptisées Occupy Central, menées par des militants pro-démocratie et notamment le professeur de droit Benny Tai. Le projet visait à s'opposer à la limitation du suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif de Hong Kong en 2017, souhaité par Pékin, qui finalement avait plié face à l'ampleur du mouvement, qu'on avait également baptisé, on s'en souvient, le mouvement des parapluies en raison de leur utilisation pour se protéger contre les gaz lacrymogènes. Alors l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est l'enlèvement de 5 employés d'une maison d'édition qui publie des livres interdits sur le continent abordant les questions de corruption notamment, mais aussi la vie sentimentale et un peu sexuelle des dirigeants chinois et notamment celle du président. Ils ont été enlevés avant de réapparaître fin février sur le continent où ils ont fait une apparition à la télévision publique dans laquelle ils confessent, je mets des guillemets, avoir vendu en Chine des livres critiquant le régime. Ces arrestations, ces enlèvements, c'est une entaille quand même sérieuse au principe d'autonomie de Hong Kong vis-à-vis de Pékin. On est loin de ce fameux principe d'un pays, deux systèmes garantissant à Hong Kong une administration, une justice séparée du régime communiste chinois. Nicolas Béclin.
Oui, absolument. Marie Holzmann parlait d'intimidation et du fait que la répression était montée d'un cran. C'est définitivement le cas à Hong Kong. Je pense que personne n'aurait pu imaginer jusqu'à très récemment que des services secrets chinois aillent jusqu'à l'enlèvement d'un citoyen de Hong Kong à Hong Kong dans le cadre d'une opération où plusieurs personnes ont été de façon similaire soit arrêtées lorsqu'elles étaient en Chine, c'est le cas pour trois d'entre eux, ou dans le cas de Gui Minhai, celui qui était le fondateur de cette maison d'édition, lui a été kidnappé en Thaïlande et n'est même pas un citoyen chinois, c'est un citoyen suédois.
Est-ce qu'on peut raisonnablement penser, Nicolas Béclin, que tout cela s'est fait
très fort?
Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que cet enlèvement s'est fait avec la complicité des autorités hongkongaises ?
Non, sans la complicité des autorités hongkongaises. Il y a, disons, une faillite complète des autorités de Hong Kong de défendre l'autonomie de Hong Kong. Néanmoins, l'état de droit le système judiciaire sont les garants de la place financière internationale qu'est Hong Kong, et en aucun cas les autorités de Hong Kong ne participeraient à un enlèvement qui serait un acte criminel. Par contre, la réponse du gouvernement de Hong Kong face à ces enlèvements inquiète énormément la population, puisqu'en fait le gouvernement n'a pas vraiment monté de challenge à la version ubuesque qui a été donnée par le gouvernement chinois à travers ses repentances télévisées où les différents participants s'accusent de crimes, renoncent à la protection consulaire auxquelles ils ont droit de par leur passeport, soit britannique, soit suédois, et font des déclarations tout à fait bizarres.
Alors, ces livres, ils sont autorisés à Hong Kong parce que la liberté d'expression y est évidemment bien plus grande qu'à Pékin. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette liberté soit restreinte également à Hong Kong? Est-ce que c'est une inquiétude sur place, Nicolas Béclin?
C'est plus qu'une inquiétude, c'est En Marche. Il y a quelques mois, le principal quotidien en anglais, le South China Morning Post, un journal qui a, je crois, 180 années d'existence, a été acquis par un groupe de la Chine continentale, le groupe Alibaba, dirigé par Jack Ma, un géant des nouvelles technologies, et probablement sur ordre de Pékin. Un certain nombre d'éditorialistes ont été renvoyés des journaux. L'un a même été attaqué il y a quelques années dans la rue à coups de couteau. Les licences pour les chaînes de télévision ne sont pas renouvelées. Il y a un environnement de pression pour faire taire les voix qui sont considérées comme critiques par Pékin, qui a considérablement augmenté depuis Occupy Central, que Pékin a vu comme un défi à son autorité à Hong Kong.
Et par ailleurs, cette pression, Nicolas
dans
Béclin...
Dans les universités.
Voilà, c'est ça. C'est pas seulement dans le domaine des médias, dans le domaine journalistique, c'est aussi dans le domaine économique, c'est aussi dans le domaine universitaire, sur l'autonomie des universités, c'est aussi des domaines sur lesquels on voit cette pression de Pékin.
Absolument. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Pékin voit dans Occupy Central, soudain réalise que la génération qui est née après la rétrocession de Hong Kong en 1987 à la Chine continentale, ont lieu d'être une génération, disons, plus patriotique, qui va accepter le système et le régime, les particularités du régime en Chine continentale, en fait, se révèle être une génération qui est extrêmement attachée à l'identité de Hong Kong, au maintien de l'état de droit et à la démocratie. Donc, aux yeux de Pékin, ils ont perdu cette génération. Il faut maintenant la regagner. Et comment on la regagne-t-on? En serrant les vis sur les médias, et en particulier sur les universités, avec la nomination d'un certain nombre de recteurs et de directeurs des universités qui sont très proches du pouvoir, et ainsi qui font passer un message très clair que quiconque défie Pékin en paie le prix. Il faut quand même se rappeler que les principaux dirigeants du mouvement étudiant ne peuvent pas entrer en Chine continentale. Ils ont été, sans qu'il y ait aucune explication juridique ou légale, simplement quand ils se présentent à la frontière,
on les empêche de passer.
Ils sont refoulés. Voilà. Donc c'est quand même un système de pression. Hong Kong a toujours joué la danse de l'autocensure, balançant les intérêts économiques de la coopération avec la Chine continentale, avec un système libre d'état de droit et d'une place financière. Mais là, quand même, il y a, depuis l'ascension de Xi Jinping au pouvoir et de Occupy Central, un changement de direction très net, et l'ancien pouvoir colonial, la Grande-Bretagne, a reconnu dans son dernier rapport parlementaire sur Hong Kong, ils ont un rapport tous les 6 mois, qu'il y avait eu un manquement, une atteinte au système, un pays de système, ce qui est la première fois dans l'histoire depuis 1997.
Donc Marie Holzmann, cette pression renouvelée qu'on voit sur le continent, elle est aussi présente du côté de Hong Kong, où il y a des choses absolument inédites qui se déroulent.
Elle est présente du côté de Hong Kong, mais elle est présente en France aussi. On ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de personnalités en France qui ne peuvent plus voyager en Chine ou dont les écrits sont évidemment censurés. Il y a des sujets auxquels on n'ose pas trop toucher dans les universités parce que les instituts Confucius se sont établis dans de nombreux établissements et envoient des professeurs chinois qui sont là un peu pour conseiller amicalement, bien sûr, leurs collègues français. C'est une lente progression en France, aux États-Unis, dans tous les pays, en Australie, bien sûr, où l'autocensure, maintenant, devient un mode de fonctionnement.
Merci beaucoup, en tout cas, à Nicolas Béclin, qui était avec nous en direct depuis Hong Kong. Un grand merci d'avoir été ce matin avec nous. Marie Holzmann, poursuivons un peu notre conversation, nos échanges. Certains dissidents d'aujourd'hui n'ont pas connu les grandes manifestations de Tiananmen. Ils étaient trop jeunes. Je pense, on parlait tout à l'heure au journaliste Xiao Xiao, qui est âgé de 35 ans. Je pense à Zheng Jinyan, qui est blogueuse, militante des droits de l'homme, l'ancienne épouse de Hu Jia, qui est l'un des plus éminents aussi militants chinois en matière d'écologie et de lutte contre le sida, qui est né en 1983. Est-ce que vous avez le sentiment que cette nouvelle génération s'inscrit, de dissidents s'inscrit en rupture par rapport à leurs aînés? Est-ce que du point de vue politique, idéologique, vous les trouvez différents?
Non, je les trouve différents sur un plan technologique. C'est la technologie qui fait toute la différence. Ce sont des gens qui sont extraordinairement habiles avec tous les outils, téléphone, internet, enfin tout ce qui peut s'inventer pour passer au-dessus du mur de la censure, au-dessus du grand mur de feu, comme on dit en Chine, et qui du coup ont acquis une forme de liberté que les dissidents d'antan n'avaient pas, parce que les dissidents d'antan, ils étaient constamment victimes de la censure dans les deux sens. Ils avaient du mal à savoir ce qui se passait à l'étranger, ils avaient du mal à se faire entendre. Ceux d'aujourd'hui sont vraiment mondialisés. Et d'une certaine façon, pour eux, la répression chinoise, l'absence totale de démocratie et le retour d'une forme de totalitarisme maoïste, c'est quelque chose qui dépasse leur entendement. Parce qu'ils n'en ont jamais eu l'expérience personnelle. Ils ont vécu dans une période où l'économie primait tout et où on s'efforçait de cacher autant que possible politique. Ils ont bénéficié de cet enrichissement de la Chine qui est évident. Donc dans leur vie quotidienne, ils ont rencontré peu de difficultés matérielles. Et du coup, ce retour en arrière vient leur tomber sur la tête vraiment comme un coup de massue.
Mais ils sont pas si différents politiquement, idéologiquement.
Politiquement, vous savez, le problème, il est très simple. Ou on est en démocratie, ou on est en dictature. Bon, ce sont des jeunes qui ont envie de connaître la démocratie, la liberté, qui ont déjà la liberté dans leur tête et qui se heurtent à une dictature. Les précédents, c'était la même chose. Ceux qui sont descendus dans la rue en 1989 étaient plus naïfs, en ce sens qu'ils pensaient qu'on pouvait réformer la dictature, qu'on pouvait l'amener par un petit coin par-ci, un petit coin par-là, à devenir un petit peu plus ouverte, un peu moins opaque, un petit peu plus tolérante des voix discordantes. Ceux d'aujourd'hui n'y croient plus. Ils savent que ou bien il faut qu'elle tombe, ou bien ils continueront à en subir les conséquences.
Alors, on parlait des journalistes, mais il y a aussi les avocats. Décembre dernier, s'est ouvert le procès d'un des plus fameux défenseurs de la liberté d'expression, Pu Shixiang. Je ne sais pas si je prononce correctement.
Pu Shixiang.
Il a été jugé pour 7 messages sur Weibo, condamné à 3 ans de prison avec sursis pour incitation à la haine raciale et provocation aux troubles. C'est un homme donc, qui est connu pour avoir été l'avocat de Ai Weiwei, pour avoir signé la charte 08. Et alors là, je vais me faire peut-être l'avocat, disons, de Pékin, Marie Holzmann, parce qu'en même temps, quand on voit ce jugement, on se dit qu'on a eu des verdicts beaucoup plus lourds. Le prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo, qui lui aussi a été condamné pour avoir signé la charte 08, il a été condamné à 11 ans de prison pour subversion, qui est la peine la plus lourde qui a été donnée pour l'inculpation de subversion au pouvoir de l'État, qui a été créé en 97. Votre regard sur ce mouvement de répression à l'égard des avocats défenseurs des libertés d'expression en général, et surtout comment comprendre cette, je mets des guillemets, relative indulgence concernant sa condamnation? On aurait pu s'attendre à une condamnation beaucoup plus lourde, Marie Holzmann.
Ah, tout à fait. Il aurait très bien pu être condamné de tentative de subversion de l'État ou même de subversion de l'État, puisque d'autres avocats qui n'ont pas fait ni plus ni moins que lui l'ont été. Mais je dirais, les voix du parti sont impénétrables. Et en même temps, c'est justement ça l'outil de la terreur. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un état de droit, tel crime, c'est telle peine, vous savez ce que vous risquez. En Chine, on ne sait jamais ce qu'on risque. Le pauvre Jia Jia, il publie une lettre, bon, qui est peut-être un petit peu insolente, mais pour cela, il va risquer le pire. Il va peut-être être torturé, on va peut-être l'obliger à se confesser, il va peut-être être condamné à subversion de l'État, qui sait. Je donnerai un autre exemple, l'intellectuel Ilham Tohti, qui est un intellectuel ouïghour et qui est connu pour sa démarche pacifique, qui a toujours pris soin de s'exprimer en chinois pour ne pas être accusé d'avoir joué derrière le dos des autorités chinoises, celui-là a été condamné à vie. C'est une condamnation dont nous ne nous remettons pas. Parce que comment peut-on condamner à vie un intellectuel qui n'a jamais appelé à utiliser les armes, qui n'a jamais tenté de créer un parti, qui n'a jamais attaqué frontalement le Parti communiste chinois?
Alors quoi, évidemment, il y a une justice à deux vitesses?
On l'accuse de séparatisme. Le séparatisme, c'est le crime absolu. Il n'y a pas une justice à deux vitesses. Le principe du totalitarisme, c'est de vouloir tout contrôler, et pour tout contrôler, il faut faire régner la terreur. Donc, quelque part, pour faire régner la terreur, il faut de temps en temps une condamnation à vie, une condamnation à mort, une condamnation à 11 ans de prison pour quelques écrits, comme c'est le cas pour Liu Xiaobo. Et puis, dans d'autres cas, disons, il y a des personnages comme Pu Zhiqiang qui sont peut-être trop gros pour être avalés tout cru.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est pas lié au fait aussi qu'il est connu et reconnu et que pour la communauté internationale, ça peut être problématique, j'allais dire?
Alors, écoutez, le Parti communiste chinois, l'opinion de la communauté internationale, il s'assoit dessus. La preuve, on a un prix Nobel de la paix, quand même, par définition. C'est une personnalité, c'est un intellectuel reconnu et reconnu pour sa démarche pacifique.
Ouais, qui a eu le prix Nobel alors qu'il était en prison.
Et bien sûr, il était en prison. Mais il y a quand même eu quelques appels pour sa libération. On aurait pensé qu'ils auraient fait semblant qu'il avait attrapé un rhume et que pour des raisons médicales, il fallait le sortir de prison, etc. Non seulement ils ne l'ont pas fait, ils ne réagissent à rien. À rien. Donc, l'opinion publique internationale, c'est pas tant le problème. C'est plus l'opinion intérieure. Au sein du parti, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui se souviennent que Pu Zhiqiang a joué un rôle déterminant sur la juridiction d'aujourd'hui. Il a fait un peu bouger les limites. Il a changé, c'est un décret qui, autrefois, permettait au parti de déplacer les populations migrantes pratiquement sans avoir à rendre de compte à personne. À partir de son intervention, il a fallu quand même un peu prendre des pincettes vis-à-vis de ces ouvriers migrants. Bref, c'est quelqu'un qui a impressionné par ses capacités d'avocat, par ses convictions, sa connaissance du droit, et qui a tenté, autant que possible, de faire régner l'état de droit en Chine. Comme la propagande chinoise est obligée de dire qu'ils vont régner avec le droit, ils sont obligés quand même de faire un peu semblant de respecter les juristes.
Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Pu Zhiqiang, il est peut-être aussi soutenu par certains réformistes?
C'est possible. Là-dessus, on ne peut pas se prononcer. Parce que si on dit qu'il y a des réformistes au sein du parti, c'est qu'on imagine que le parti va se réformer lui-même. Nous n'y croyons plus. Nous pensons que c'est une implosion ou une explosion, une bagarre intérieure, je ne sais pas, un coup d'État, ou alors un incident quelconque du genre Tchernobyl qui fera tomber le parti. Donc nous ne croyons plus aux réformistes à l'intérieur du parti.
Et vous ne pensez pas que ce mouvement des avocats pourrait entraîner un mouvement plus profond, plus général au sein de la société civile?
Pour le moment, la société civile est pulvérisée. On a attaqué tous les aspects de cette société civile. Il y a maintenant une loi contre les ONG, je dirais, on dit la loi sur les ONG. Moi, je l'appelle la loi contre les ONG, qui est en train d'empêcher les ONG de percevoir des subventions venues de l'étranger. Ça, c'est leur mort certaine. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, toutes les grandes associations humanitaires ou non humanitaires, Greenpeace, la Fondation Soros, font circuler de l'argent à travers le monde. En essayant comme ça d'isoler complètement la Chine, le gouvernement est en train d'isoler la société civile. Et par ailleurs, elle est en train de la réprimer de tous les côtés. Quand on sait que la directrice d'une bibliothèque ambulante dans les campagnes a été arrêtée et condamnée à la prison, vous voyez jusqu'à quel degré de détail on va. Quand on sait que ce sont des milliers de croix qui ont été abattues sur les églises du Zhejiang, l'année dernière et l'année d'avant, on voit que ce sont les chrétiens chinois qui sont réellement quand même assez pacifiques et calmes pour le moment, enfin qui l'étaient, qui sont visés. Tout le monde est visé.
On va revenir dans un instant sur ces chrétiens chinois, mais essayons de comprendre finalement les raisons de ce renouveau de l'autoritarisme chinois. Début mars s'est tenue la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire, le Parlement chinois. Le Premier ministre Li Keqiang a présenté un nouveau plan de relance de la croissance pour la période 2016-2020. C'est évidemment la priorité absolue que de relancer cette économie qui n'a cessé ces derniers mois de donner des signes de faiblesse, même si on l'a beaucoup dit, il y a des débats sur les chiffres précis de cette économie chinoise. En tout cas, force est de constater que les rythmes de la croissance sont en train de baisser et Pékin sait pertinemment qu'il ne peut pas se permettre de laisser son économie ralentir, tant c'est une condition de survie pour le Parti communiste chinois, Marie Holzmann. Quel lien est-ce que vous faites entre les difficultés économiques de la Chine et le durcissement des autorités vis-à-vis de ces dissidents ?
Il me semble qu'il est évident, parce que les Chinois ont l'habitude de dire « nous avons abdiqué notre liberté pour un peu plus de confort ». Et ça a été la stratégie de Deng Xiaoping. À partir de 1989, il a passé ce deal avec la population chinoise. Vous cessez de vous occuper des affaires de l'État, ça c'est notre affaire. Et nous, on vous donne toute liberté pour vous enrichir. Bon, ce deal a bien marché pendant 30 ans. Maintenant, il y a plusieurs circonstances qui font que l'économie chinoise est grippée. Il y a évidemment le contexte mondial et la crise économique depuis 2008. Mais il y a aussi peut-être des erreurs stratégiques à l'intérieur même de la Chine. On a longtemps dit que la Chine allait développer son marché intérieur, mais en fait, elle n'y parvient pas. Elle reste toujours dans un marché d'export. Et si elle dépend de l'export pour sa fortune et pour ses devises, c'est sûr qu'il y a un moment, ça va bloquer. Donc,
ça va bloquer jusqu'où ? Est-ce que vous pensez que le ralentissement économique est une menace pour la stabilité du régime ? Est-ce
évidemment.
Que vous pensez que si le ralentissement se poursuit, il pourrait y avoir, pour le coup, une crise politique généralisée ?
Absolument. Parce que tous les Chinois disent, écoutez, vous nous avez pollué l'air, pollué l'eau, pollué la terre, tous les aliments sont frelatés. Vous n'avez pas respecté vos engagements par rapport à nous. C'est-à-dire que, ok, on se tait, mais pour le reste, tout va bien. Pourquoi voulez-vous qu'ils continuent à donner leur assentiment à un pouvoir si, en plus, l'avenir de leurs enfants est menacé ? Ça, c'est très, très important pour les Chinois. Maintenant, il y a de plus en plus de diplômés qui restent au chômage. Et pour des parents qui se sont saignés aux quatre veines...
Parce qu'il y a de plus en plus de diplômés aussi.
Il y a de plus en plus de diplômés, mais il y a aussi un système qui est dysfonctionnel. C'est-à-dire que c'est quand même le pouvoir qui continue à gérer les grandes entreprises. C'est le pouvoir qui décide de ce qui est bon ou mauvais pour l'économie. Et on sait par expérience que si le marché n'a pas son rôle dans l'économie, il y a un moment, ça ne va plus marcher.
En août dernier, un avocat engagé dans la défense des communautés chrétiennes contre la démolition d'églises a fait l'objet d'une opération de communication dont les autorités ont le secret. C'est Zhang Kai, écoutez.
Je sais que beaucoup de ces églises étaient des constructions illégales qui auraient dû être détruites. Mais beaucoup de gens sont venus me trouver et je leur ai dit que le gouvernement agissait dans l'illégalité. Je leur ai dit que ce que faisait vraiment le gouvernement, ce n'était pas de raser des bâtiments illégaux, mais d'oppresser les églises. Et ensuite, je leur ai dit que j'ajouterais mes forces aux leurs pour défendre les droits de l'homme. Je regrette beaucoup ce que j'ai fait et j'éprouve un remords sincère. Mon action a enfreint les lois chinoises et elle va à l'encontre du code des avocats. Elle a perturbé l'ordre social, mis en danger la sécurité de l'État et elle a beaucoup affecté ma famille.
Voilà, après avoir été arrêté, Zhang Kai a avoué, entre guillemets, à la télévision, a avoué avoir poussé les Chinois de confession chrétienne à se rebeller contre le gouvernement. Pourquoi les autorités s'en prennent-elles aux communautés chrétiennes, Marie Holzmann ?
Ah, on revient toujours au problème du totalitarisme. Un gouvernement totalitaire a besoin de montrer qu'il domine tout. Pendant 30 ans, par exemple, le gouvernement chinois a dominé tout dans le domaine de la vie privée des gens en leur imposant un enfant unique, en intervenant à n'importe quel instant pour avorter des femmes enceintes au mauvais moment, pour stériliser des femmes. Je pense que cette intervention dans la vie privée des gens deviendra bientôt ce qu'on considère comme un crime contre l'humanité. Et intervenir dans la vie spirituel des chrétiens, c'est aussi une façon de dire votre espace spirituel nous appartient. Et à partir du moment où vous représentez une masse trop importante, vous apparaissez aussi comme une menace. Regardez le cas du mouvement spirituel Falun Gong. Il a commencé à être réprimé dès 1999 et il est estimé qu'à ce jour, il y a probablement 3900 membres de Falun Gong qui sont morts sous la torture dans les prisons officielles ou non officielles. Et cette répression continue de la même façon. On en parle beaucoup moins, mais elle est du même type que cette répression contre les chrétiens aujourd'hui.
On poursuit notre série consacrée aux nouvelles dissidences. Aujourd'hui, on est du côté de l'Asie avec Marie Holzmann. On va, après avoir évoqué la Chine, on va aller du côté de la Birmanie. La semaine dernière, le Parlement birman a élu au poste chef de l'État un proche d'Aung San Suu Kyi, dont le parti la Ligue Nationale pour la Démocratie avait largement remporté les élections législatives de novembre, on s'en souvient.
J'ai été élu grâce à la compassion et à l'amour des gens. C'est une victoire du peuple et pour le pays aussi. C'est aussi la victoire d'Aung San Suu Kyi.
En ce moment, notre pays a besoin d'une personne comme lui qui puisse négocier entre les différents groupes. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui a ce talent.
J'ai l'impression de rêver en étant ici au Parlement. Personne n'aurait jamais pensé que la NLD aurait formé un jour un gouvernement, même nous. Ça bouleverse non seulement la Birmanie, mais le monde entier.
Voilà donc ce nouveau président, Thinh Cho, compagnon de dissidence d'Aung San Suu Kyi, écrivain, professeur. On a beaucoup dit dans les médias qu'il avait été le chauffeur de la dame de Rangoon, mais pas seulement, bien sûr. Bonjour Guy Lubet.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, chargé de la mission permanente à Rangoon. Vous êtes revenu de Birmanie il y a une dizaine de jours. Vous êtes resté 5 mois sur place, donc vous étiez sur place au moment des élections législatives. Mais ça fait des années en fait que vous faites des allers-retours régulièrement. C'est la première fois depuis les années 60 que le pays se dote d'un président qui n'est pas issu des rangs de l'armée. C'est une révolution. Comment vit-on ça sur place? Comment les Birmans ont vécu cette élection et qu'espèrent-ils finalement, Guy Lubet?
Il faut surtout se rappeler, c'est que il y a eu des élections au mois de novembre dernier, des élections générales, et pour la première fois, la population a pu s'exprimer librement, ou à peu près librement, pour exprimer ce qu'elle pensait. Et ce qu'elle a exprimé avant tout, c'est un ras-le-bol définitif, parce qu'ils en ont, ils ont vraiment assez d'avoir l'armée et les militaires au pouvoir, qui contrôlaient absolument tout dans la population, dans la vie économique, socio-économique du pays depuis 50 ans. Et donc, ils ont exprimé un ras-le-bol vraiment très puissant.
Et au-delà du ras-le-bol, qu'est-ce qu'on peut attendre, Guy Lubet? Parce qu'on a beaucoup dit que cet homme était le compagnon de dissidence d'Aung San Suu Kyi. On a répété à l'envi qu'il était son chauffeur. Il faut quand même rappeler qu'il n'était pas seulement son chauffeur, qu'il est professeur d'université, qu'il est économiste, que c'est un fils d'écrivain, qu'il est issu d'une famille intégrée dans la vie politique du pays depuis des décennies. Comment comprendre cette nomination? Et puis, quel sera le pouvoir de ce président? Quelle marge de manœuvre pour lui?
En ce qui concerne la nomination, c'est simplement comme l'armée a empêché un changement de la Constitution qui aurait permis l'accession de Aung San Suu Kyi au pouvoir. Donc il a fallu trouver un autre moyen politique de faire en sorte de passer par-dessus de cette constitution qui avait été rédigée par les militaires pour les militaires. Donc là, Aung San Suu Kyi a trouvé quelqu'un qui lui est proche, avec lequel elle a des affinités, qui a vécu d'ailleurs, lui et sa femme ont vécu près d'Aung San Suu Kyi dans sa maison pendant les années difficiles. Donc elle a une totale confiance en lui. Et par conséquent, puisque les militaires ne le veulent pas d'elle comme présidente de la République, c'est lui qui est présenté qui va être nommé officiellement dans quelques jours.
Oui, ce sera le 1er avril prochain. Il y a encore beaucoup de prisonniers politiques dans les geôles du pays. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que certains d'entre eux recouvrent la liberté désormais? Après tout, les dissidents d'hier s'emparent là du pouvoir. Ça devrait changer la donne pour eux.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le régime birman, enfin actuel, sous la constitution actuelle, divers ministères sont restés complètement sous le contrôle des militaires. Alors, il y a la défense, bien entendu, il y a les affaires étrangères, et surtout le ministère de l'Intérieur, avec la police, et c'est ce ministère qui continue, même encore maintenant, là, dans les jours derniers, il y a un certain nombre de dissidents, en quelque sorte, de jeunes qui avaient protesté contre ce régime, et ils ont été mis en prison, mais il y en a certains qui sont en prison depuis un an, rien que pour avoir participé à une manifestation protestant contre une nouvelle loi sur l'éducation nationale qui conduisait à maintenir le contrôle des militaires sur les étudiants. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça. Ces jeunes qui sont dans les prisons, maintenant, ce que l'on peut espérer, c'est que normalement, quand le président de la République sera officiellement élu, donc le 1er avril, il va certainement prononcer une amnistie générale ou quelque chose comme ça, qui va permettre aux jeunes de sortir des prisons. Alors, il faut savoir comment. Est-ce que l'armée ou le ministère de la Justice, qui est sous le contrôle de l'armée, est-ce que ils vont s'opposer ou ils vont trouver des moyens pour faire traîner encore la libération de ces jeunes? C'est une espèce de vengeance contre les jeunes. C'est un truc complètement fou.
En tout cas, on voit très bien que cette dissidence n'a pas tous les leviers du pouvoir aujourd'hui. Allez, toute dernière question, Guy Lubet. Le pays est plongé, on le sait depuis des années, dans des guerres internes entre les différentes ethnies. Il y a plus de 130 ethnies sur l'ensemble du territoire. Des groupes armés qui se battent, qui se sont battus et qui se battent encore aujourd'hui, notamment contre l'armée régulière, connue pour sa brutalité. Est-ce que le nouveau pouvoir va avoir, donc issu de la dissidence historique, va avoir les moyens de mettre un terme à ces violences? Est-ce que la paix entre les ethnies est possible?
Il y a deux choses. Premièrement, Aung San Suu Kyi a dit que la priorité de son gouvernement serait de négocier avec les rebelles, tous les groupes rebelles, pour avoir la paix dans cette union qui est vraiment à feu et à sang depuis 60 ans pratiquement. Donc, ça c'est une chose. Maintenant, en ce qui concerne le pouvoir, il est évident qu'elle n'aura pas les moyens de faire quoi que ce soit pour une raison très simple. Par exemple, en ce moment même, l'armée birmane continue à lancer des offensives contre divers groupes rebelles dans l'État Shan et dans l'État Kachin. Ça continue, ils les bombardent carrément. Il y a une autre chose, donc elle n'a pas de contrôle sur la défense, sur les militaires, etc. Et elle n'a aucun contrôle non plus sur, en quelque sorte, je dirais, les services secrets birmans qui fomentent sans arrêt des troubles de toutes sortes. Et le dernier truc, c'est que ils ont poussé les moines nationalistes à lancer un mouvement de protestation contre la nomination d'un vice-président chrétien. Ce qui est complètement, évidemment, fou et qu'on empêcherait toute une réconciliation nationale, ce à quoi veut travailler Aung San Suu Kyi.
Marie Holtzmann, réaction sur cette Birmanie. Évidemment, comparaison n'est pas raison. Bien sûr, ce qui se passe en Birmanie ne pourrait probablement pas se passer en Chine, mais qu'est-ce que ça vous inspire, Marie Holtzmann?
D'abord que les Birmans ont effectué un choix stratégique très intéressant. Je crois que c'était en 2010, lorsqu'ils ont rejeté la Chine en lui disant qu'ils en avaient assez de collaborer avec elle et qu'ils se sont tournés vers les États-Unis. C'est à partir de ce moment-là que tout d'un coup la démocratie a été possible et ce rejet de la Chine était très inattendu et très courageux.
Cheers.
Merci beaucoup à Guy Lubet qui était avec nous. Je rappellerai son ouvrage Birmanie, Dieu, Or et Frontières. Et un grand merci à vous, Marie Holzmann, de nous avoir accompagnés pour cette première émission sur les nouveaux dissidents. Vous entendez peut-être que vous reconnaissez la voix de cet homme juste derrière nous. C'est Ai Weiwei qui chante. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés.
Merci pour votre invitation.
Merci beaucoup. On retrouvera Michel Elchaninov demain pour les nouveaux dissidents. On va faire toute une série cette semaine sur les dissidences. Dans un instant sur France Culture, c'est La Grande Table avec Raphaël Bourgois. Mais juste avant, c'est La Vie Moderne sur France Culture. Très belle journée et à demain.